Projection privée. Bonjour, cette émission est consacrée pour moitié au prix France Culture de cette année au Festival de Cannes et d'autre part au film d'Emmanuel Berco qui a fait l'ouverture de ce même festival. Auparavant, alors je réserve un petit suspense, mais auparavant je voudrais simplement parler du début de ce festival. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en tant que critique, observateur, c'est qu'il n'y a plus vraiment de frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la compétition officielle qui présenterait les meilleurs films, mais que les frontières s'effacent, c'est-à-dire qu'on trouve des films admirables à la quinzaine des réalisateurs, à un certain regard, hors compétition, et puis des films en compétition qui sont pas toujours aussi bons que ça. Donc il n'y a plus du tout de hiérarchie entre les catégories. Par exemple, il y a eu deux très beaux films qu'on a vus en compétition, c'est le film de Nanni Moretti, Mia Madre, et un film de Laszlo Nemes, un premier film d'un réalisateur hongrois, Saul Fia, mais on a vu hors compétition Irrational Man de Woody Allen et Mad Max de George Miller qui, à leur façon, sont des films d'une qualité remarquable. Et puis, à la quinzaine, des deux événements qui n'étaient pas du tout dans la compétition, c'est-à-dire le film de Philippe Garrel, L'ombre des femmes, et le film de Arnaud Desplechin, Trois souvenirs de ma jeunesse. Mais on pouvait voir aussi, à un certain regard, des vraies découvertes. Je pense, par exemple, à un film iranien d'une jeune réalisatrice, Ida Panahande, qui s'appelle Naïd, un portrait de femme absolument magnifique. Un film islandais, Bélier, de Grímur Hákonarson, inconnu au bataillon, et puis L'étage du dessous d'un cinéaste roumain également très talentueux, Radu Muntean. Voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment le plus frappé, c'est que, je vais pas citer les grosses déceptions que nous avons eues en compétition, mais ce qui m'a frappé, c'est cette porosité finalement entre les différentes sections. Mais parlons maintenant de deux films qui ont eu ce prix France Culture. Déjà, l'un confirme ce que je viens de dire, puisqu'il s'agit d'un prix décerné par les étudiants de beaucoup d'écoles de cinéma et de facultés de cinéma. Parmi les 5 films finalistes, parmi lesquels ils devaient choisir, il y avait « Chante ton bac d'abord » de David André, « Of Men and War » de Laurent Bécu-Renard, « Hope » de Boris Lochkin et « Les merveilles » de Alice Rohrwacher. Et puis, il y avait le gagnant, c'est-à-dire « Mange tes morts » de Jean-Charles Hu, film tout à fait passionnant, qui est sorti l'an dernier, qui avait été montré justement à cette quinzaine des réalisateurs. Et puis, le prix, ça c'est le prix, disons, révélation, et le prix confirmation, si tant est qu'il ait besoin encore d'avoir un prix confirmation, mais c'est le grand cinéaste.
Consécration.
C'est le grand cinéaste Abderrahman Sissako pour son film qui a eu le César, qui a représenté la Mauritanie aux Oscars, qui a eu et qui n'a été absent du palmarès dont tout le monde s'est lamenté. Et je répète que parfois il y a des absences qui vous rendent encore plus présent, car on a parlé énormément du film d'Abderrahman Sissako qui a fait plus d'un million d'entrées, qui a été vu par des gens de toutes catégories. Alors j'ai peut-être envie de commencer cette conversation avec ces deux lauréats qui, tous les deux, d'une certaine façon, font de l'ethnographie, puisque le film de Jean-Charles Hu, c'est dans une communauté qui n'est pas vraiment des gitans, mais c'est une communauté proche des gitans. Et puis, évidemment, Abderrahman Sissako sur Timbuktu. Abderrahman, vous avez fait le tour du monde avec ce film. Vous étiez déjà évidemment un grand cinéaste consacré par La vie sur terre, par Erema Kono, En attendant le bonheur, par Bamako, etc. Ben, vous êtes un cinéaste, un des grands cinéastes de l'Afrique, et pas seulement de l'Afrique, un des grands cinéastes contemporains. Mais qu'est-ce que vous retenez comme impression de ces voyages dans tous les festivals et même des sorties de films dans certains pays? Il n'est pas sorti probablement encore dans tous les pays qui l'ont acheté. Quelle est l'impression que vous ressentez? Les variétés aussi sont certainement des réactions.
Pour ce qui est très étonnant, hein, quand un film arrive dans un festival comme Cannes, ce qui était mon cas il y a un an, il arrive dans une forme d'urgence, c'est-à-dire le film à peine terminé. Donc on l'a à peine vu nous-mêmes, on le donne à l'appréciation des autres et que les gens s'en accaparent quand c'est positif et que ça vous lance dans une marche, en tout cas un accompagnement extraordinaire où on passe 3 jours ici, 3 jours là, voilà, et ça a duré 1 an pratiquement, et qui m'a amené à la rencontre de publics tout à fait différents, aussi bien en Afrique, en Amérique, Amérique du Sud ou dans le Moyen-Orient, et donc c'était pas souvent des sorties salles, ou quand c'est des sorties salles, ce sont des promotions. Et mais c'était très souvent des festivals et un public, je dirais, parfois averti, voilà, qui s'intéresse à une forme de diversité. Et moi, j'ai le sentiment tout simplement que, au final, le cinéma est véritablement un langage universel. Voilà, et que lorsqu'on parle cette langue avec bien évidemment une intonation, hein, ou même un bégayant si on veut, mais en tout cas c'est une langue universelle, et que il y a aussi un public universel. Voilà, et donc j'ai plutôt le sentiment que le film est accueilli dans ce sens-là, ouais, positivement.
Mais ça peut peut-être surprendre aussi, parce que les gens aiment les catégories, aiment les cases dans lesquelles mettre les œuvres, et vous faites un film politique, puisqu'il s'agit tout de même de El-Qaïda, il s'agit du terrorisme, etc., dans ce petit village, mais en même temps, vous ne l'abordez pas frontalement comme certains films politiques qui ont un message à donner avec... bon, évidemment, on voit bien le rôle très négatif que joue cette armée d'occupation terroriste, mais vous empruntez aussi les codes du western, les codes du film de genre, et aussi la chronique d'un village. On en a parlé longuement, puisque vous étiez déjà venu à projection privée pour la sortie du film. Mais comment réagissent, par exemple, un public, d'abord, peut-être le public de votre continent, puisque le film a été montré, par exemple, à Ouagadougou, il n'a pas eu le Grand Prix, alors qu'il écrasait la compétition. Quelles ont été les réactions en Afrique même?
Moi, je dirais tout d'abord qu'un film est un échange, hein, c'est une proposition, voilà, et on propose quelque chose. Et parce que, dans ce cas particulier, pour moi, c'est important, dans une forme d'urgence, de raconter ça, mais un film n'est pas... c'est pas une vérité, c'est pas avoir raison. Donc, on doit pas décider d'imposer un point de vue aux autres. Et donc, quand on n'a pas cette envie d'imposer un point de vue, la forme devient très importante. La forme d'un film, ça devient important. Même si c'est dur, hein, même si parfois on a l'impression qu'on amène les gens dans un truc. Donc la forme est importante. Et cette forme, pour moi, c'est d'être celui qui propose quelque chose tout en étant en retrait. Voilà. Et bien évidemment, un film n'est pas destiné à un public particulier, mais un film s'inspire de choses particulières, de lieux particuliers. Hein, et donc ce public est important. Voilà. Donc moi, mon public, voilà, ça me gêne souvent de dire mon public africain ou mon public, parce qu'un artiste ne doit pas avoir une forme d'appartenance comme ça. Et c'était très important pour moi la première projection, je dirais, en Mauritanie déjà, parce que bon, c'est mon pays, mais c'est aussi un pays où la culture du cinéma a cessé d'exister depuis longtemps. Il n'y a pas de salle, les gens ne vont plus au cinéma. Et quand on amène un film qui s'inscrit dans une actualité pas évidente, parce que le sujet, c'est pas facile. En tout cas, j'avais un sentiment... voilà. Et là, c'est là où j'ai vu que finalement, qu'au-delà d'une approche cinéphilique, qu'un spectateur, c'est quelqu'un quand même qui a sa forme de générosité, aussi sa capacité, voilà, sa capacité de transcender des choses et d'être dans une forme d'objectivité.
Ouais. Alors Jean-Charles, d'une certaine façon, je disais, votre film, lui aussi, relève un peu d'une anthropologie. Vous avez fait d'abord plusieurs courts-métrages documentaires qui étaient des films sur les yéniches, justement. ces nomades européens, peut-être plus russes, plus pauvres que les gitans, mais qui appartiennent un peu aux gens du voyage. Et puis vos deux longs métrages de fiction, La BM du Seigneur de 2010 et maintenant Mange tes morts, tous les deux. Je signale d'ailleurs aux auditeurs que ces deux films sont en DVD. On peut les trouver, le film d'Abderrahmane Sissako et le film de Jean Charlu. Donc c'est la merveille du DVD. Ça, il faut voir les films en salle, mais parfois c'est trop tard. Alors on peut les voir en DVD. Mais donc vous avez une approche qui est très intéressante parce que elle est, disons, pour résumer, si on veut une comparaison, elle est entre Jean Rouche et Peckinpah. C'est-à-dire que vous aussi, comme Abderrahmane Sissako, qui on pense au western avec des codes, votre film c'est un casse fait par quelqu'un. Comme dans Le Solitaire de Michael Mann, qui ressort bientôt, Le Solitaire de Michael Mann, c'est un film sur un type qui a fait pas mal de prison et qui revient et qui, c'est classique dans les films policiers américains et pas seulement américains, essaye de refaire sa vie, mais avant il veut tenter un nouveau coup avec des gens de sa famille et d'ailleurs des gens que vous connaissiez très bien, les Dorkel, que vous avez fréquentés et qui jouent tous, c'est une smala qui joue dans votre film. Voilà, alors ce point de départ de vous ancrer dans une réalité tout de même étrangère, enfin même si ce sont des Français.
Ça c'est clair, ça c'est... je pense que tout ce que j'entends et les discussions qu'on a pu avoir avec Monsieur Sissako, enfin depuis ce matin, comment dire, ben, je vais répondre à votre question. C'est... Non mais justement, comme là c'est on va dire c'est la radio, on a un peu de temps. Je trouve ça intéressant de pouvoir faire remonter un peu peut-être en désordre un peu les choses, puisque c'est quelque part je crois qu'on parlait un peu de ça. C'est-à-dire moi je me souviens d'une phrase comme ça, l'enseignant cinéma que j'avais eu quand j'étais étudiant, Patrice Rollet, m'avait dit un jour, il avait fait un cours sur le plan au cinéma. Et il avait dit cette phrase. Il y a beaucoup de phrases comme ça qu'on entend quand on est étudiant, qu'on maîtrise pas du tout, mais elles vous frappent comme une espèce de chose, comme ça, elles vous frappent totalement, comme un moment de lumière, sans qu'on sache exactement à quoi ça correspond encore. Et parfois, fabriquer des films, je pense que ça tient beaucoup de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'à un cas, on fabrique quelque chose. Alors, il disait que le plan, un vrai plan, c'était quelque chose qui menaçait de se casser la gueule à tout moment. Si l'image, ce que l'on voit là, ce qui advient, les acteurs, le paysage, etc., l'équilibre, le temps qui est sous-tendu ne risque pas à tout moment de se péter la gueule sous vos yeux, c'est que c'est pas un plan. Donc, bah, c'est comme un mystère cette affaire-là, quoi. C'est comme un mystère. Donc, bon, je suis ravi que vous me parliez de Jean Rouch et de Monsieur Peckinpah, parce que quelque part, je me suis avec le temps peut-être calé par rapport à des gens comme ça. Mais d'abord, c'est parce que ce dont il parlait, enfin ce que j'entendais moi, parce que ce dont il parlait. Enfin moi, ce que j'entendais moi dans ma petite banlieue avec mes parents, j'aurais jamais. On parlait d'histoire avec mes parents, on parlait de musique, parfois de piano avec ma mère. On parlait de tout un tas de choses. Mon père était passionné, lui, d'histoire. Donc je pense que j'ai été nourri au moins autant à un moment donné des westerns de Peckinpah, de John Ford qui passaient à la télévision française à l'époque, le dimanche soir, et non pas les séries télé. Et donc je me suis nourri de ça. Et je peux vous dire qu'à l'époque, je savais pas du tout que c'était un réalisateur qui était derrière la caméra. C'était, pour moi, le cinéma, c'était une apparition, c'était la grotte de Platon. J'étais là, j'avais un plateau sur les genoux, mon verre de vin, j'avais 13-14 ans, et puis je regardais John Ford, La Prisonnière du désert, c'était l'épiphanie du week-end. Donc... Je crois qu'on sait pas trop ce qu'on fabrique. Alors, même à l'époque, quand je suis allé rejoindre les Yéniches, la famille Dorkel, puisque mon arrière-grand-père est un Dorkel qui était donc comme eux voyageur Yéniche, mais on a perdu cette tradition parce qu'il s'est sédentarisé, et j'ai voulu les retrouver. Alors là, on en appelle au sang, effectivement, on se dit, voilà, je suis peut-être un peu de sang gitan, donc on éprouve de la fierté, bizarrement, on dit, tiens, je vais aller voir par là-bas ce qui s'y passe. Et c'était surtout, en fait, une chose, parce que ça ne m'appartenait pas, tout ça. C'est-à-dire que c'était tout ce que je n'étais pas, et ce que je ne suis toujours pas devenu, d'ailleurs. C'est ça qui est formidable, c'est que j'y suis allé avec la naïveté de croire que j'allais peut-être devenir gitan. Alors, bien sûr, j'ai appris des choses, bien sûr, il y a un petit bout de moi qui est devenu... gitans, comme on disait dans le film de David Lean à propos de Laurence d'Arabie, toute proportion gardée. Mais c'est vrai que cet homme-là est déjà presque arabe. En fait, c'est ça l'affaire, quoi. Et donc, moi, je suis parti là-bas pour me lancer dans une aventure qui allait me sortir, Pardon, je suis pas très clair. Mais en fait, c'est parce que ce qu'il essaye de faire advenir, monsieur Sikassis. Abderrahmane, je vais dire Abderrahmane.
Oui.
J'ai un peu de mal parfois à dire le prénom comme ça de. Mais ce que dit Abderrahmane, c'est ça, c'est quelque chose qui advient au fur et à mesure. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors encore moins parfois ce que ça va être le public qui ira au bout. Et finalement, on a la chance parfois d'être surpris de ce qu'on fabrique avec les gens avec lesquels on le fabrique. Voilà. Et les gitans eux-mêmes ne savaient pas non plus ce qu'on était en train de fabriquer. Et peut-être que c'était du cinéma, peut-être que ça n'en était pas. Comme on disait tout à l'heure, comme disait Abderrahmane tout à l'heure, effectivement, on pourrait faire autre chose d'ailleurs que du cinéma, à un moment. Et je pense que c'est ce qu'on a fait avant tout, avant de faire du cinéma. On a fait autre chose. On a monté une communauté. On a vécu ensemble. On a vécu des moments forts, des moments durs, des moments joyeux. Et de cela est advenu quelque chose qu'on appelle le cinéma, parce que c'est un objet qui se monte dans un endroit, et quand on le monte dans cet endroit-là, de cette façon-là, ça s'appelle au moins techniquement du cinéma. Mais finalement, est-ce que c'est la grande question qui nous anime tous? Je pense pas. Ce qui nous anime tous, c'est justement c'est l'aventure. C'est pour ça que j'en viens après cette longue
boucle. Abderrahmane Sissako,
à cette affaire.
Il y a peu une démarche finalement qui est assez proche de votre travail avec des gens d'une communauté qui viennent s'intégrer enfin dans une fiction. Il y a des non professionnels aussi dans votre film.
Donc ce qui est important, intéressant pour moi, c'est cette dimension de considérer qu'un film s'invente aussi en le faisant, qu'un film est fragile et que même si on ne sait pas ce que ça va devenir, qu'il y a une sorte de lâcher comme ça. Mais ce lâcher où il y a beaucoup d'improvisation, il n'est véritablement possible que quand il y a une rigueur, en fait, derrière ça. Et la rigueur, c'est la chose qu'on a envie de raconter et qu'on pense que c'est vraiment important de le dire. Pas parce que on est mieux placé ou pas parce que on est important ou qu'on sait mieux le faire, mais cette forme de petite conviction intime qu'on a sur les choses et qu'on lâche pas. Mais on le lâche un peu aux yeux des gens sur un plateau. Il y a plein de choses qui se passent et voilà. Et le film s'enrichit et voilà. Et quelque part, parfois, on est même un peu surpris de ce qu'on a fait. Voilà, un peu surpris. Et on pense que les gens exagèrent un peu, même si on leur dit pas. Voilà, on est content en tout cas que ça prenne cette dimension-là et que alors que au départ, il n'y a pas d'intention. Je pense que chez un artiste, l'intention première, véritablement, c'est une forme de sincérité envers soi-même, envers le métier qu'on a choisi.
Ouais. Jean Charlu, il me semble, on va en parler aussi après avec Abderrahmane, et il me semble que vos films sont vraiment différents. Je veux pas du tout essayer artificiellement de les comparer comme s'ils étaient d'une même esthétique. Non, mais en même temps. Je trouve que ce que votre film possède, et celui d'Abderrahmane Sissako aussi, c'est de montrer quelque chose de crédible, quelque chose qui tient du réel, qui est ancré dans le réel, et en même temps, une forme de sublimation, c'est-à-dire une forme de dépassement poétique qui fait que on n'en reste pas à un réalisme de surface.
Alors, je suis d'accord au mot près. Bon, l'idée de la sublimation... La dernière personne que j'ai rencontrée qui me parlait de ça, c'était un psychiatre, d'ailleurs. Non pas mon psychiatre, parce que je suis pas en psychanalyse. Ça reste le cinéma pour moi, la psychanalyse. L'histoire de la sublimation. En fait, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'en fait, c'est finalement ce que moi j'ai vécu quand j'étais, pour le dire simplement, gamin, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment dans ma vie, j'ai passé du temps chez mes grands-parents. Et il se trouve que... j'ai perçu à l'âge de 3 ans le monde de cette façon-là, c'est-à-dire que il y avait effectivement un réel. Ma grand-mère était bien là, mon grand-père était bien là, et en même temps, il se trouve que ces personnes-là étaient habitées par des formes de croyances, comme ma grand-mère qui mesurait le déplacement tous les matins, elle mesurait le déplacement du vase qui était posé sur la table de la cuisine, et donc de 20-25 centimètres tous les matins de déplacement comme ça. Et ma grand-mère, la première chose qu'elle faisait, c'était sortir son mètre à ruban rose et le mesurer ce déplacement. Et après, la vie reprenait, mais tout à fait normalement. Elle me servait mon café au lait, me faisait mes tartines, et moi, je commençais à manger. Et ce que je comprenais de tout ça, c'était que ce magique, pour le dire comme ça, cette chose sublimée, poétisée, rentrait tout à fait dans la vie réelle et n'était pas une coupure. Voilà, n'était pas une coupure. Donc moi, je peux dire qu'à un moment de ma vie, ça m'a beaucoup plu parce que je me sentais en accord avec ça, ou tout simplement parce que je l'ai appris comme ça, la vie. On n'a pas à les différencier. Voilà. C'est que après, malheureusement, à un moment, on vit dans un monde parfois qui nous correspond moins ou plus réel, et on commence à différencier les choses. Alors ici, on prie Dieu ou pas. Ici, on est au travail. Ici, on est en famille, etc. Et en fait, j'ai pas voulu voir la vie comme ça. Je l'ai, par contre, supporté un certain nombre d'années comme ça. Et le cinéma s'est proposé à moi comme la solution pour que tout ça puisse à nouveau rentrer dans ma vie. Et les yéniches, les voyageurs, ont ça tous les jours. L'épiphanie fait partie de leur vie quotidienne. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, ok, là je suis pour le coup chez moi. Avant de vouloir faire du cinéma, je me suis dit, je suis revenu à la maison mère, celle de mes grands-parents, où effectivement le magique habitait le quotidien et faisait très bon ménage.
Ce qui est intéressant, Abderrahmane Sissako, ce qui est intéressant, ce que nous dit Charles Huss, c'est tout de même proche du surréalisme. C'est-à-dire que ce que les surréalistes ont introduit dans la culture occidentale, c'est une révolution importante, c'est justement comment entre la réalité et le monde magique, c'est très poreux, les choses peuvent passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, l'admiration des surréalistes pour l'art océanien, pour l'art africain, qu'ils ont été les premiers à considérer comme de l'art, c'était leur intérêt justement pour la magie. Donc, c'est intéressant de voir un film justement sur une ethnie en France qui rejoint dans les préoccupations ce que vous montrez aussi dans votre film. L'Afrique est tout de même aussi une terre de magie.
Moi, je pense que toute terre est magique, en fait. Hein, qu'il y a parfois une tendance, même exagérée, à particulariser telle ou telle partie du monde. Et je crois que l'Afrique souffre un peu aussi de ça, de ce regard presque lointain qu'on construit. Mais quand on s'intéresse aux choses, quand on s'intéresse à la vie, même en France, quand on va très loin, dans le sens, quand on va profondément dans les rencontres avec les gens, ceux dont on ne parle plus, parce que minoritaire et tout ça, et on se rend finalement compte que c'est la vie qui est magique, c'est la vie qui est mystérieuse, et elle est partout comme ça. Voilà, et le cinéma arrive comme un art. C'est pourquoi on voit que on est toujours étonné. C'est-à-dire chaque jour, chaque instant, chaque festival apporte son étonnement, parce que il y a cette approche mystique du réel, mais ça cesse d'être le réel d'une certaine façon, parce qu'il y a ce qui est incroyablement pour moi, et je ne sais pas si je peux me permettre d'annoncer et vous parler du réel, de la réalité, le cinéma comme la réalité, la tête haute d'Emmanuel Berco.
Le film d'Emmanuel Berco dont nous parlerons
a été pour moi, mais ça je ne le dis pas parce que vous êtes arrivé là, pas parce que ça, parce que c'est pour moi, ça a été, et je le découvre, je suis mais subjugué par la force d'un réalisme, mais un réalisme d'une universalité. C'est pas une question de la France dans ce film, c'est l'enfant, c'est la vie, c'est la femme, c'est la mère, c'est presque cet éducateur qui, pour moi, même si en Afrique nous on n'a pas d'éducateur, mais c'est l'oncle. C'est l'oncle qui s'attache, qui a une fonction de sauver le neveu, comme ça. Et quand tu vois tout ça dans un film, avec une forme de brutalité, c'est parce que dur, mais avec une tendresse, des moments de tendresse, mais c'est bouleversant. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est la dureté, mais c'est la tendresse coûte que coûte, qui est là au rendez-vous et qui est la vie et qui donne espoir. Et moi, j'ai été vraiment subjugué par ça. Et le rôle du cinéma, c'est ça aussi. C'est nous réconcilier avec la vie difficile, voilà, la vie belle aussi, voilà, le réel. Donc, le réel, c'est ça. Le réel, c'est ça. Et la magie du cinéma, le côté magique, nous permet d'accéder de façon beaucoup plus forte que la presse me dira ou que ma vie quotidienne, je passe à côté de ça, je m'intéresse pas aux enfants abandonnés, je m'y intéresse pas fondamentalement. Mais le cinéma te ramène ça. Et là, tu relativises énormément de choses.
Je pense que ça rejoint exactement le film de Jean Charlus qui nous fait découvrir. Alors, ils sont pas à 3000 kilomètres ou je ne sais pas en Mauritanie, ils sont à 100 kilomètres de Paris, mais de nous faire connaître des laissés pour compte, des gens dont on ne parle jamais, qui sont des gens de peu, et d'accéder à une connaissance de l'intérieur de ces personnages. Alors, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre façon de travailler avec ces dorquels, cette sorte de famille d'adoption, et comment vous les faisiez devenir comédiens dans ce casse et dans cette équipée absolument célinienne à travers la nuit pour accomplir leur forfait.
Alors, moi, je pense très honnêtement que c'est pas moi qui les a aidés à devenir acteurs. Par contre, je suis convaincu qu'ils sont devenus acteurs. Ça, par contre, je le dis sincèrement. Comme je le disais, bon, voilà, on se rencontre il y a 18 ans. Moi, j'avais déjà à l'époque, quand je les rencontre, ils m'ont accepté, alors que eux, finalement, n'étaient curieusement pas très acceptés, même parmi les leurs, puisque cette famille-là avait une réputation au sein même du monde gitan extrêmement dure
et sulfureuse,
et personne, y compris les gitans, voulait aller les voir. Donc moi, je suis arrivé un jour sur le terrain et ça a dû certainement, je pense, comprends comme ça, les étonner que quelqu'un vienne les voir comme ça, un peu les mains dans les poches. Alors du coup, ils m'ont accepté. Et pas que parce que je parlais d'un arrière-grand-père qui portait le même nom qu'eux. Ce que très vite, ils l'ont oublié, voire même certains ont douté. Enfin bon, ça n'a pas été la question du sang qui s'est posée. La question qui s'est posée, c'est est-ce que tu es comme nous? Est-ce que tu penses comme nous? Est-ce que voilà. Et puis moi, j'étais là pour apprendre d'eux. J'étais pas là pour qu'ils apprennent de moi. Donc je pense que on a fonctionné comme ça pendant pas mal d'années. J'avais déjà une caméra. Et je refusais de la sortir, parce que je voulais devenir l'un des leurs, je voulais pas passer pour le gadget de service, le caméraman de service. Donc je suis resté pendant quand même 7 ans sans tourner. Alors, mais la caméra était dans la valise.
Le gadget, il faut dire, c'est les deux,
les gitans. C'est voilà, comme les goy, pour les juifs. Et par contre, j'enregistrais du son. J'enregistrais beaucoup de sons. J'avais un magnétocassette et j'enregistrais les réunions évangéliques, les conversations dans les caravanes. Le son était devenu voilà. Et puis, au bout de 7 ans, 8 ans, un ami producteur m'a dit : « Écoute, je te paye une caméra vidéo. » Et tu devrais filmer ce qui est en train de t'arriver, c'est formidable. J'y suis allé, j'ai demandé leur autorisation. J'aurais dit, est-ce que je peux vous filmer? Alors certains, c'était très difficile, comme Frédéric, puisqu'il était recherché par la police. Donc j'ai longtemps filmé ma future vedette de dos dans tous ces déplacements. Mais j'ai commencé à les filmer au jour le jour, et c'est devenu des films de famille. C'est-à-dire que moi, je les ai montrés après dans l'art contemporain, parce que je viens du monde dit de l'art, hein. Je suis passé par une école d'art, je suis rentré en galerie avant de montrer des films au cinéma en salle. Et je faisais ces films-là, je les montrais dans des galeries, des centres d'art et à l'étranger. Et je leur montrais à eux, quand je revenais les voir. Et eux voyaient ça comme des films de famille. C'est ça que moi, j'aimais beaucoup. C'était, on se souvenait de tel chien qui était mort, mais que la vidéo nous permettait de revoir. Et en fait, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'ai vu, maintenant je le sais, Frédéric, l'acteur principal, le personnage principal, mon ami Frédéric, est devenu comme ça. Il a commencé à, non pas à composer un rôle, il a commencé à être dans cette image. Lui, dans la vie, c'est un chef. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il sait se placer, toujours, quoi qu'il arrive, dans l'espace, par rapport aux autres. Il est central. Voilà. Lui, il a pas besoin de parler. Il distribue du silence et Et il a commencé à faire la même chose avec la caméra. C'est-à-dire à se placer, quand je revois les rushs de l'époque, les images de l'époque, à se placer par rapport à la caméra, à installer des silences et à distribuer la parole. Donc finalement, c'est ce qu'il a continué à faire après au cinéma. Et faire du cinéma a été une décision en partie de la mienne et d'un producteur, sans doute. Mais c'est d'abord Frédéric qui un jour m'a dit, voilà, je rencontrais un ange, j'arrête de voler des bagnoles. Et j'aimerais qu'un jour, toi Charlie, qui sais faire des choses avec une caméra, on puisse en faire un vrai film, c'est-à-dire qu'il sort dans une salle de cinéma. C'est lui qui a insufflé l'idée, le projet, de faire un vrai film et de le montrer aux autres. Mais dans un esprit assez évangélique, protestant, c'est-à-dire le témoignage. Chez eux, c'est important. Nous, le témoignage, on le fait par rapport au curé dans l'obscurité, et on voit pas notre visage. Alors que le monde protestant, ça c'est bien, j'aime beaucoup ça, c'est on le fait par rapport à une foule. On raconte sa vie à une foule. On dit avant ma rencontre avec le Seigneur, j'étais comme ça, et après. C'est un témoignage. On se raconte soi-même. On se raconte une vie. Et Frédéric, c'est ce qu'il a compris du métier d'acteur, je pense, entre autres. C'est, il a pris le cinéma pour un témoignage qu'il allait pouvoir donner à 10 000 personnes, 20 000, 50 000, 60 000 en l'occurrence. Et s'inventer à la fois sa vie et sa propre mythologie. Hein? Et en même temps, témoigner du monde yéniche, dont personne ne parlait, que ce soit les anthropologues ou très peu, il y a un ou deux anthropologues qui en ont parlé. Et en fait, on est parti sur cette idée de raconter notre mythologie, quoi, finalement. Celle de Frédéric, mais de manière plus large, les Dorkel, le monde yéniche, et voilà. C'est un peu mettre par écrit ce qu'eux ne font jamais, quoi, finalement, quoi.
Merci beaucoup Jean Charlus. Donc je rappelle que vous avez eu le prix décerné par les étudiants comme révélation avec ce film « Mange tes morts ». Et puis Abderrahmane Sissako, alors ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a 12 ans, vous aviez eu le prix révélation France Culture pour « En attendant le bonheur » en 2003. Et je dois dire, donc, peut-être Jean Charlus aura le même itinéraire que vous, c'est ce que je lui souhaite, d'avoir dans 12 ans le prix consécration. Et puis, vous êtes président cette année du jury de la Ciné-Fondation, justement les films de jeunes, ceux qui arrivent, et les courts-métrages, qui sont aussi les futurs, bien sûr, longs-métragistes. Donc, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces deux films qui ont été primés. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine, mais plus long que d'habitude, 30 minutes, donc, avec Emmanuel Berco. Donc, on va entendre un peu d'Éric Satie, et puis ce sera une conversation avec Emmanuel Berco.
Merci.
Voilà, donc Emmanuel Berco nous a rejoint pour parler de son film La Tête Haute, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec un grand succès. Et je pense que vous aviez été très tendu, Emmanuel Berco, de cette offre qu'on vous faisait d'ouvrir le Festival de Cannes. C'est une lourde responsabilité, mais je crois que vous êtes rassérénés parce que ce que j'ai entendu dire, c'est ce qu'on dit, ce sont les chiffres qui parlent. C'est pas tellement mon genre de parler chiffres.
Oui, c'est vrai.
Mais tout de même, on peut le dire que depuis deux jours, il y a eu combien de spectateurs déjà en France?
150 000, je crois.
Déjà. 150 000 spectateurs. Donc là, vous allez être peut-être millionnaire. Enfin, je parle en nombre de spectateurs.
Quand même pas, mais c'est déjà
150
magnifique.
000 en deux jours, ça promet. Donc le film, évidemment, je sais que un quotidien du matin a trouvé que le film était Sarkozy. Je crois que il y a que eux qui l'ont trouvé Sarkozy, parce que je suppose que comme vous nous montrez un juge pour enfants qui est compatissant, qui est dur, joué par Catherine Deneuve, qui ne mâche pas ses mots, mais qui néanmoins s'intéresse à un jeune garçon, et que d'autre part un éducateur s'intéresse également à ce jeune garçon, donc c'est la réprobation, parce que ce sont des gens qui représentent le pouvoir bourgeois et qui doivent automatiquement être présentés sous des traits abominables. Et donc c'est peut-être ça qui a suggéré ce terme de sarkozisme.
Je suis contente que vous me l'expliquiez, parce que
je vous l'explique pas.
Ça reste très obscur pour moi.
Voilà, donc alors Emmanuel Berco, c'est vrai qu'on vous suit depuis toujours, enfin pour moi, toujours, vous n'êtes pas si âgé que ça.
Si, je commence à être âgé, c'est vrai que vous me suivez depuis le tout début.
Depuis Clément et La Puce, même avant, un court-métrage. Donc ce film qui est d'une force émotionnelle, je crois que le public ne s'y trompe pas quand il sait que il va rencontrer des sujets généreux et traiter avec beaucoup de force. Il y va, enfin il va voir aussi de très mauvais films, donc je vais pas du tout sanctifier le public, mais le public est capable d'avoir du talent aussi, comme les critiques parfois ont du talent, parfois n'en ont pas. Tout le monde a des défauts et des qualités à proportions égales. En tout cas, voilà, c'est une histoire. Peut-être vous pouvez la résumer. Et ce qui vous a, je crois que c'est assez personnel, la raison pour laquelle vous avez abordé ce sujet.
C'est personnel dans la mesure où la question de la justice sociale en particulier, et aussi de la protection de l'enfance, sont des choses qui m'ont toujours passionnée depuis que je suis vraiment petite. Et il se trouve que Donc dans ce film-là, ça réunit ces deux thèmes qui sont profonds chez moi. Mais c'est surtout que j'ai un oncle qui est éducateur pégigiste, c'est-à-dire le métier que fait Benoît Magimel dans le film. Et que donc depuis que je suis enfant, je l'entends raconter ses anecdotes, ses liens avec ses gamins qu'il essaye d'aider sur de longues années. Et j'avais été en fait, j'ai un souvenir très précis, j'avais 8 ans et j'avais été passer une journée dans un camp qu'il organisait avec ses jeunes délinquants en Bretagne, sur une plage. Et moi, petite fille bourgeoise, ça a été un véritable choc pour moi de découvrir ces enfants qui étaient à peine plus âgés que moi et dont je comprenais bien qu'ils n'avaient pas eu la chance d'être aimés, en tout cas de façon équilibrée, d'être éduqués. Et j'étais même un peu fascinée par cette sauvagerie de ces gamins-là. Et puis aussi, j'avais découvert le travail bouleversant de ces éducateurs qui consacrent leur vie à apporter en fait à des enfants ce qu'ils n'ont pas eu auprès de leur famille.
Mais comment vous avez nourri ensuite, vous avez dû faire un travail considérable, parce qu'il y a une sorte de vérité tout de même dans les situations, un grand travail de documentation.
Ah oui, on a fait un travail colossal. Colossal, évidemment, de lecture de à peu près tout ce qui existe sur la question. Moi, j'ai visionné à l'INATEC tous les documentaires et tous les reportages sur la justice des mineurs. Et puis surtout, ce qui a été le plus fondamental, c'est les stages que ma co-scénariste Marcia Romano et moi, nous avons faits au tribunal pour enfants, en passant de nombreuses journées auprès des juges des enfants et puis dans les divers centres éducatifs qui sont représentés dans le film. Et ça a été décisif pour amasser une matière documentaire qui puisse rendre les choses vraiment très très proches de la réalité, de comment ça se passe.
Vous aviez écrit, participé au scénario de police qui était sur une brigade de protection des mineurs, car il faut pas oublier que vous êtes à la fois comédienne, puisqu'on va vous voir dans le nouveau film de Mewen, qui est également en compétition, enfin pas également, votre film malheureusement, oui. Je sais pas pourquoi, c'est un mystère, n'est pas en compétition, mais en tout cas, vous êtes la vedette du prochain film de Mewen, vous êtes scénariste, comme je viens de le dire, vous l'avez en tout cas pour vos propres films, mais aussi pour Police, et puis vous êtes bien sûr réalisatrice. Alors ici, c'est le travail éducatif de la justice, il y a tout de même des points communs, entre l'esthétique de ces films, qui sont très différents dans l'un de l'autre, mais néanmoins dans cette sorte de préoccupation justement du rapport avec l'enfance.
Oui, il y a plusieurs points communs. La préoccupation du rapport avec l'enfance, évidemment. Aussi cette recherche viscérale de réalisme, je crois qu'il y a un point commun que nous avons, Maïwenn et moi. Et puis, c'est vrai qu'il y a un pont entre les deux films, dans le sens où la première scène de La tête haute, qui met en scène un petit garçon de 6 ans, et ben ce petit garçon-là aurait effectivement pu être dans les bureaux de la brigade de protection des mineurs de police. Donc j'en étais évidemment pas consciente, mais c'est vrai que ce petit garçon qui ouvre le film, il fait le pont entre les deux films.
Est-ce que vous travaillez, comment vous travaillez avec, parce que le jeune acteur Rod Parado qui joue cet enfant délinquant, il y a quelqu'un de plus jeune qui interprète son rôle, parce que ça commence très tôt ces problèmes de famille. Je crois que c'est différent de d'autres enfants que vous avez, ou de jeunes gens que vous avez dirigés,
oui.
Parce que il est très différent de ce qu'il est dans la vie.
Oui, j'ai fait un certain nombre de films avec des jeunes acteurs débutants comme Isidre Lebesco, Olivier Guérité. Et c'est vrai que je les avais choisis aussi parce qu'ils étaient très proches du personnage qui était écrit et que finalement je leur demandais d'être eux-mêmes devant la caméra. Là, c'est la première fois effectivement que je suis amenée à choisir un non-acteur adolescent qui est très très loin du personnage et donc où tout était à faire, où tout était à inventer. Où en fait je lui ai demandé de devenir acteur du jour au lendemain et pas seulement d'être lui-même. C'est-à-dire s'il était lui-même devant la caméra, ça marchait pas. Tout d'un coup, c'était plus le personnage, ça sonnait faux. Donc ça a été un travail vraiment très 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 difficile pour moi, pour lui, mais aussi pour moi, pour l'amener là où je voulais emmener ce personnage. Mais à la fois c'était passionnant aussi, difficile mais passionnant.
C'est parce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui oui. était comme le rôle.
En fait, j'ai pas trouvé l'acteur que je cherchais.
Donc vous avez Donc pris le risque.
J'ai pris le risque exactement de prendre Rod Parado, sans du tout me figurer que ça allait prendre de telles proportions dans le travail de direction d'acteur que j'ai dû faire avec lui, et du coup un peu au détriment des autres, c'est vrai, parce qu'il a évidemment focalisé beaucoup mon énergie. Et c'est vrai que c'est j'ai pas l'habitude, moi, de me transformer en professeur d'art dramatique sur un plateau. Même quand je fais jouer des non-professionnels, comme je leur demande d'être eux-mêmes devant la caméra, j'ai quasiment rien à faire. Et avec les acteurs professionnels, même si beaucoup de gens pensent qu'on ne dirige pas Catherine Deneuve, mais on la dirige, et puis très bien en plus, j'ai eu beaucoup moins de temps à consacrer aux autres acteurs. C'est ce qui m'a le plus pesé, finalement.
Mais comment vous arrivez à l'intensité, à la violence incroyable de certains moments? On trouve ça chez Cassavetes, mais on trouve pas ça souvent à
de
ce
la part
point
de,
chez
de...
Piala. Mais de, oui, des irruptions de violence, cette façon dont d'un seul coup il est sage, on croit qu'il est transformé ou qu'il ne va plus retomber, puis d'un seul coup ça explose, il se met à violenter une femme enceinte.
Mais c'est justement le pousser jusqu'à ce qu'il explose, et ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de prises, et puis c'est aussi un âge où on est. Lui, en tout cas, il est dans le contrôle, dans le souci de son image, et il y avait des choses, je pense, qu'il n'avait pas envie de lâcher. Donc c'est le pousser, mais le brutaliser, hein. Enfin, je veux dire, je l'ai jamais frappé, mais et puis c'est communiquer une énergie. S'il le fallait, je lui montrais à quelle intensité je voulais emmener la scène. Et puis finalement, je pense que je le poussais tellement, qu'il m'en voulait tellement, qu'il souffrait tellement, que la rage qu'il laissait exploser, elle était contre moi, en fait, en réalité. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, mais peu importe. Moi, ce que je voulais, c'est obtenir cette violence et qu'elle soit dirigée, qu'elle vienne de sa colère envers moi, peu importe. Mais c'était ça. C'est vraiment communiquer une énergie jusqu'à ce qu'il la ressorte.
Alors, c'est pas votre film n'est pas Boyhood, c'est-à-dire vous n'avez pas suivi votre comédien pendant 15 ans comme dans le film de Boyhood, mais comment ça se passait par exemple pour sa prise de conscience ou sa connaissance de son passé, comme certains metteurs en scène donnent des fiches biographiques à leurs personnages, à leurs acteurs, pour qu'ils connaissent mieux qu'est-ce qui s'est passé avant. Mais ce qui s'est passé avant, on le voit dans le film, puisque c'est un jeune, un enfant en bas, enfin très jeune, qui joue donc ce personnage jeune. Comment Rod Parado, vous l'avez informé de l'arrière-plan familial, en fait, de tout ce qui fait qu'il est devenu ce qu'il est?
La première scène suffit, en fait, à tout raconter. Un enfant de 6 ans est abandonné par sa mère, et après il y a une ellipse de 7 ans, et on comprend bien qu'il a été de foyer, de famille d'accueil en foyer et en famille d'accueil, et que sa blessure originelle, c'est le syndrome d'abandon. Donc moi, je vais rien expliquer de plus que ça, hein. De toute façon, moi, j'aborde jamais les choses sous l'angle psychologique, mais je pense que tout est contenu dans cette scène. Et puis il y a aussi une chose importante, je pense, qui a maturé chez lui, c'est l'absence du père. L'absence du père, qui est vraiment un point commun, malheureusement extrêmement fréquent chez le pourcentage d'adolescents délinquants. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il a dû travailler, même inconsciemment.
Le personnage... Bon, vous dites que vous travaillez, mais en même temps, c'est très écrit.
Ah oui.
Il y a pas, par exemple, Maïwenn, elle improvise beaucoup. Vous avez une méthode totalement différente.
Ah, j'ai une méthode très différente de celle de Maïwenn. Je pense que notre point commun, comme je vous le disais, c'est la recherche d'une vérité absolue. Donc, on passe pas par les mêmes biais, puisqu'elle, elle pense que le dialogue écrit tue le naturel. Moi, je ne pense pas ça. Mais c'est vrai que mes films sont archi écrits, que je ne laisse pas les acteurs rajouter des mots, changer les phrases et tout. Je tiens à ce que le texte soit dit tel qu'il est écrit. Mais en même temps, je veux que ça ait l'air tout aussi vrai et naturel que dans les films de Maïwenn où on improvise. C'est une autre forme de travail.
Mais vous pouvez aussi être ouverte à un accident qui se passerait et qui serait meilleur que ce que vous avez écrit.
Évidemment, je cherche les accidents. Et ces choses-là, elles peuvent arriver, par exemple, dans le cas de la tête haute, dans toutes les scènes de groupe où il y a plusieurs jeunes... Là, qui sont là pour être eux-mêmes devant la caméra. Là, les scènes ne sont pas les scènes où il y a beaucoup de monde. Je les écris pas précisément. Je donne le thème, je donne des points de repère sur où doit aller la scène et de quoi on doit parler. Et après, ils se lancent. Et après, le montage fait le reste. Et là, j'attends effectivement les accidents et puis parfois la grâce, comme dans Elle s'en va, la scène avec le vieux monsieur. Entre Catherine Deneuve et le vieux monsieur, ça c'est une scène improvisée où je trouve il y a une grâce qui en sort et dans ce, pour moi là c'est les grands moments de plaisir des tournages.
Alors vous venez de citer Elle s'en va, c'était votre première rencontre avec Catherine Deneuve, c'est la deuxième fois donc qu'elle joue avec vous, elle joue formidablement ce rôle de juge. Vous réussissez un peu ce que les Dardenne ont réussi avec leurs deux derniers films avec Cécile de France et Marion Cotillard, c'est-à-dire d'intégrer une star, même Catherine Deneuve, c'est plus une star qu'aucune des deux autres, mais c'est un mythe presque, et de l'intégrer dans un casting avec à la fois des gens qu'on n'a jamais vus, comme ce jeune garçon, etc. C'est-à-dire qu'elle se fond littéralement, elle est juge d'instruction.
Oui, mais Catherine est quelqu'un qui... Bon, pour le spectateur, il faut ce laps de temps où on oublie que c'est Catherine Deneuve pour ne plus voir que le personnage. Mais elle ne joue pas. De toute façon, elle l'est. Elle l'est totalement. Et là, c'était un enjeu particulier pour elle parce que on ne voit rien de la vie de cette juge. On ne sait rien d'elle, rien de son background, rien de sa vie privée. Donc, elle était réduite à la fonction de juge dans le film. Et c'est pas intéressant pour un acteur de jouer une fonction. Donc elle a réussi à jouer parfaitement la fonction parce que pour avoir vu énormément de juges dans leur bureau, je peux vous dire qu'elle est d'une justesse, mais c'est exactement comme ça que ça se passe, qu'ils parlent tout le rythme. Enfin, elle a saisi quelque chose de très vrai. Et en même temps, elle est un personnage. C'est-à-dire, il y a une humanité qui se dégage d'elle, qui n'appartient pas à la fonction, qui appartient au personnage de cette juge. Donc c'était, de toute façon, elle avait un peu peur, hein, de ce rôle. Même si elle avait très envie, elle avait un peu peur, elle était impressionnée de pas arriver à dépasser la fonction. Mais bon, moi je trouve qu'elle est exceptionnelle dans ce personnage, vraiment.
Est-ce qu'elle aime Catherine Deneuve plusieurs prises ou est-ce qu'elle aime...
Non, pas beaucoup, très peu. Au bout de la troisième prise, déjà, ça l'amuse beaucoup moins. Et en général, je fais deux prises avec elle.
Alors comment ça se passait avec un petit garçon qui n'est pas le rôle et qui doit justement interpréter et comment ça peut s'harmoniser avec quelqu'un qui au contraire, aime tout de suite dans le bain?
Ben ouais, c'était difficile aussi pour ça. Bon, pour toutes les scènes de bureau, j'ai décidé, je n'aime pas tourner à deux caméras. Mais pour toutes les scènes de bureau, comme il y avait souvent beaucoup de monde dans la pièce, j'ai décidé de tourner à deux caméras. Et évidemment, c'était terrible parce que Catherine est tout de suite très bonne et le jeune garçon, pas du tout. Donc, ils étaient pas raccord, en fait. Et c'était très difficile pour les autres acteurs parce que tant que j'avais pas ce que je voulais chez Rod Parado, il fallait que les autres continuent à jouer. Ils continuaient à être filmés, mais ils étaient épuisés parce que eux, au bout de 15 prises, c'est pas des acteurs, en l'occurrence ceux du film Magimel, Deneuve et Forestier, qui ont besoin de beaucoup de prises. Donc c'était très usant pour eux, c'est sûr. Mais ils avaient beaucoup de bienveillance et d'affection pour Rod Parado, donc ils ont joué le jeu sans jamais s'impatienter. Mais c'est vrai que c'était un tournage à double rythme. Il y avait le rythme de Rod et puis le rythme des acteurs confirmés.
Alors le choix de Dunkerque, le choix du Nord. Parce que le Nord, finalement, attire les cinéastes français. J'ai remarqué le nombre de films. Enfin, au départ, c'est pas un pays très photogénique.
Si, comment vous pouvez dire ça? Non, la lumière est magnifique dans le Nord.
Voilà déjà un début de réponse. Mais a priori, moi, j'adore le Nord. J'adore les gens du Nord. J'adore la Belgique. Donc, c'est pas du tout un jugement négatif. Mais c'est vrai que c'est tout de même un paysage qui attire particulièrement le nombre de cinéastes français qui vont tourner dans le Nord et qu'est-ce qui vous attirait par Dunkerque?
Alors il y a plusieurs choses. Je pense que moi je suis très pas inspirée mais très fan du cinéma social anglais et que monter vers le Nord pour moi c'est de me rapprocher de cette ambiance-là aussi des films de Ken Loach, Mike Leigh et tout ça, et que même Rod Parado je l'ai aussi choisi parce que pour moi il avait une gueule des gamins qui jouent dans ces films anglo-saxons. Donc partir vers le Nord, pour moi, c'était naturel pour retrouver cette ambiance presque anglo-saxonne, parce qu'on sent l'influence à Dunkerque de choses anglo-saxonnes, et parce que c'est cinématographique, tout simplement, même si là, j'ai très peu d'extérieur. Et aussi parce que pour moi, dans le Nord, on sait qu'il y a une grande précarité sociale, mais... autant à Paris, si vous voulez, dans les bureaux des juges, on voit énormément, on voit très peu de délinquants type caucasien, comme on dit. Autant dans le Nord, je sais que la délinquance n'est pas concentrée sur les jeunes issus de l'immigration. Donc, comme je voulais absolument sortir de cette problématique-là, aller dans le Nord, ça permettait aussi de crédibiliser ça. Et puis les gens, comme j'utilise des vrais gens, enfin des gens de là où je tourne, et que les gens là-bas, je les trouve formidables, leur façon de parler, leur chaleur humaine, tout, voilà, ça me permettait d'ancrer le film dans un lieu qui apportait encore plus de vérité au film, me semblait-il.
L'écriture se fait pour vous à deux, ou vous avez besoin de travailler avec quelqu'un sur l'écriture ?
Maintenant, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un. C'est trop douloureux pour moi la phase du scénario pour que je le fasse toute seule. En revanche, quand vous parlez d'écriture, c'est-à-dire le moment où on rédige, où les idées viennent, où les dialogues sortent, ça c'est une étape que j'ai besoin de faire absolument toute seule, que je peux pas faire avec quelqu'un. Mais tout ce qui précède le premier jet d'écriture, oui, j'aime vraiment échanger avec quelqu'un, puis profiter du talent et de la vision d'une autre personne.
Et qu'est-ce que vous apporte alors justement Marcia Romano dans...
Mais Marcia Romano, là, elle m'a apporté quelque chose d'énorme, dans le sens où j'avais dès le départ l'idée de ce trio, et j'avais à peu près tous les personnages, mais j'étais partie avec une ambition beaucoup plus romanesque, beaucoup plus foisonnante, avec beaucoup plus de personnages. Et c'est elle qui très vite m'a dit « Je pense qu'il faut faire un film de bureau ». Et qu'on ne suive ce jeune que dans son parcours éducatif. Et qu'on n'aille jamais, quasiment, qu'on ne sorte jamais de ça, qu'on se tienne à un parti pris radical, qu'on ne voit rien de la vie privée de la juge, rien de la vie privée de l'éducateur. Et que, voilà, ce terme film de bureau, pour moi, ça a été un déclic. Et je pense que si le film, pour ceux qui l'aiment, en tout cas, a cette force aujourd'hui, c'est quand même grâce à cette idée-là de sa part.
Mais je crois que la longueur de l'écriture, la durée de l'écriture était très longue, parce que vous l'aviez en fait commencé à écrire avant. Elle s'en va.
Ouais, bien sûr. Bah oui, j'ai signé ce contrat pour ce film en 2010, donc il y a 5 ans, et j'avais tout de suite dit à mes producteurs, parce qu'en France, évidemment, on le sait, il y a un problème pour les scénaristes qui sont trop mal payés et à qui on laisse trop peu de temps. Donc, les scénarios sont souvent bâclés parce que, voilà, il n'y a pas l'argent pour permettre autant de faire son œuvre. Et là, je leur avais tout de suite dit, je sais que c'est un scénario qui va me prendre énormément de travail et qui va me prendre énormément de temps. Donc, aussi parce qu'il y avait tout ce travail d'imprégnation sur le terrain et d'assimilation de ce monde de la justice des mineurs, parce qu'il fallait quand même que je maîtrise même le code pénal. Enfin, pour inventer les issues de chaque scène dans le bureau, il faut que je sache face à tel délit, quelles décisions peuvent être prises, etc. Donc il a fallu que je maîtrise quand même un peu tout ça. Et puis ce qui était bien, c'est que j'ai pas fait un stage trop long avant l'écriture, parce que je pense que si j'étais partie du stage sur le terrain pour écrire, j'aurais vu tellement de choses extraordinaires que j'aurais voulu tout raconter et que j'aurais perdu mon personnage. Là, la narration et les personnages, ils étaient déjà très très aboutis au moment où j'étais faire le stage et où j'ai pu nourrir de la vérité documentaire les scènes qui étaient déjà écrites et rajouter quelques trucs incroyables que j'avais vus, mais en tout cas sans éclater totalement la narration elle était déjà bien là, et le stage, il a servi vraiment à nourrir les scènes et les situations.
Dans votre type de cinéma, de rechercher l'instant vrai, comme Cartier-Bresson qui cherche le moment décisif, qu'est-ce que vous attendez du chef opérateur, c'est-à-dire de Guillaume Chiffin en particulier, puisqu'il est votre chef opérateur, la rapidité, c'est ça qui compte le plus?
Oui,
la façon d'éclairer très rapidement ou de...
Évidemment, dans ce type de tournage, la rapidité compte énormément. Et en même temps, quand on tourne avec Catherine Deneuve, on peut pas faire n'importe quoi à la lumière. Donc là, on était dans un entre-deux où il fallait quand même élaborer pas mal la lumière, et qu'en même temps, on avait un rythme de tournage effréné. Mais les instructions pour Guillaume Chiffin sur ce film, puisque je ne voulais pas que le film soit dans un style documentaire, ni à la mise en scène, ni à l'image, c'était quand même une lumière assez chiadée que je lui ai demandé. Donc une lumière chiadée, ça demande quand même pas mal d'installations, de projecteurs, etc. Après, ce que j'attends de lui, c'est qu'il fasse corps avec les gens que je filme, et qu'il ait la sensibilité, puisque c'est lui qui tient la caméra quand moi j'aimerais la tenir, parce que c'est mon regard que j'ai envie qu'il passe à travers l'œil de la caméra. Donc c'est presque d'être, de ressentir tellement ce que je cherche, qu'il puisse presque anticiper ce dont j'ai envie. Donc ça demande une grande disponibilité au moment où on filme, et une grande sensibilité aussi à ce qui se passe et au visage des gens qui sont filmés.
Alors, on a parlé de Benoît Magimel, on a parlé de Rod Parado, on a parlé de Catherine Deneuve, bien sûr. Sarah Forestier, ça vous rattache évidemment à... C'est un peu une famille, à Kechiche.
Oui.
Non ?
Oui, Sarah Forestier est liée à Kechiche pour toujours, à travers l'esquive. Mais moi, je me sens pas lié à Kechiche.
Ah non, j'ai pas dit que vous étiez sa fille spirituelle. Mais
ah non, bien sûr.
Il y a un cinéma tout de même, du réel.
Bien sûr.
Et vous l'avez choisi pour jouer donc cette mère indigne.
J'ai choisi pour jouer cette mère indigne, mais elle, c'est un cas à part dans le film, puisqu'elle elle a dû composer. C'est une vraie composition qu'elle a fait. Le personnage était quand même assez chargé, même si je tiens à dire que dans les bureaux des juges. Par rapport aux mères que j'ai vues, le personnage de Sarah Forestier est vraiment très soft. Mais elle devait vraiment composer. Pour moi, ce qu'elle fait, ça se rapproche de justement ce que savent faire les acteurs anglais. C'est-à-dire, ils sont totalement dans la composition et on a l'impression que c'est un non-professionnel qui joue tellement ils sont vrais. Donc Sarah, elle, c'est parce que je pense que c'est une actrice incroyable et qu'elle est capable d'aller très loin. Et je pensais à elle déjà à l'écriture de toute façon. Donc, et puis c'est une fille qui propose énormément, donc c'est assez passionnant de travailler avec elle, parce que quand on est cinéaste, on attend qu'une chose, c'est d'être surpris. C'est là où c'était difficile avec Rod, c'est que j'étais jamais surprise, puisque j'étais obligée de lui dire tout ce qu'il avait à faire, il sortait jamais des rails que je lui mettais. Mais Sarah, chaque prise est différente, elle apporte des choses au personnage, alors parfois elle va trop loin, mais en tout cas c'est vivant, c'est puissant, et c'est un vrai bonheur pour un cinéaste.
Alors, ce film aussi, peut-être que cette critique du quotidien, dont il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises critiques.
Ah, dis donc, je les ai pas lues, mais il paraît qu'elles étaient costauds, les mauvaises. Mais
alors, justement, peut-être ce qu'on vous reproche, c'est les gens qui n'admettent pas que aussi les films puissent donner une lueur d'espoir. La vie est pleine de choses terribles, tragiques, mais aussi de belles choses.
Mais pourquoi c'est pourquoi c'est blâmable de.
Ben voilà, mais on va pas raconter la fin du film. Mais c'est vrai que finalement, c'est un film sur l'éducation. On parle beaucoup aujourd'hui des problèmes d'éducation. C'est une éducation qui réussit. Et peut-être l'idée qu'une éducation réussisse chagrine certains parce qu'ils voudraient que les spectateurs sortent automatiquement des salles dans une dépression totale. Et c'est pas l'optique que vous avez choisie.
Mais pas du tout. Mais moi, je vais pas faire un film sur l'éducation pour dire que ça sert à rien, que ça marche pas. Enfin, on sait très bien qu'il y a aussi beaucoup d'échecs dans la justice des mineurs. Et puis en plus, moi, c'est pas une happy end. On sait pas vraiment comment il va tourner. Ça s'ouvre un peu. On sort de cette spirale enfermante. Mais je ne dis pas du tout que tout est réglé. Loin de là. Et il est de bon ton aussi de taper sur les institutions. Et ça, franchement. Moi, ça commence à m'agacer et je m'en fous d'être à la mode. Donc, de toute façon, moi, j'avais envie de rendre hommage à cette institution parce que ce que j'y ai observé pendant ces 5 ans m'a forcé mon respect. Si j'avais trouvé ça lamentable, mais j'aurais fait un film tout à fait différent.
Il y a tout de même un thème de prédilection dans tous vos films, c'est tout de même l'adolescence et aussi la rébellion d'une certaine façon.
L'adolescence permet la rébellion, c'est pour ça que j'aime tant les personnages adolescents, parce que j'aime la rébellion, j'aime les excès, j'aime les mouvements contraires, et que comme c'est un âge où on se cherche, tout est possible, et c'est vrai que cet âge me fascine. Et les adolescents, comme les enfants d'ailleurs, me fascinent dans la vie. Donc je passe beaucoup de temps à les observer. Donc logiquement, c'est une source d'inspiration pour moi.
Mais je crois que vous avez un projet d'ailleurs encore sur une rebelle. C'est sur ce personnage de Irène Frachon.
Exactement,
qui s'est attaquée à Mediator.
Ouais, c'est une vraie rebelle. Oui, oui. Oui, je vais faire ce film sur l'histoire vraiment d'Irène Frachon. Cette mère courage, quoi, qui s'est élevée toute seule, petite pneumologue de Brest contre un des plus gros laboratoires pharmaceutiques français. Donc, une fois de plus un personnage héroïque.
Mais on le reprochait pas à Soderbergh quand il faisait Erin Brockovich, alors
Non. Mais là, on me le reproche.
Non.
Ah bon ?
Moi, j'ai rien dit.
Non. Si on me reproche quelque chose avant que j'ai fait un film, là, je sais que vraiment, je suis mal barré.
Mais bref, justement, alors, comment vous avez eu cette idée de ce projet de film ?
C'est Haut et Court qui me l'ont proposé. Donc, c'est vraiment pas une idée qui est venue de moi. Et au départ, je vous avoue que j'étais pas du tout convaincue. Et c'est en rencontrant Irène Frachon et en voyant cette femme incroyable qui est un vrai personnage de cinéma que j'ai été conquise par cette idée.
Vous avez envie de tourner plus?
Ouais, il faut que je tourne plus. Je trouve que je suis dans la deuxième partie de ma vie, c'est-à-dire dans la pente descendante. Je trouve que j'ai pas fait assez de films. J'ai un parcours qui a été trop lent, et là j'ai envie de rattraper le temps perdu, donc c'est vrai que je veux tourner le plus possible.
Vous disiez dans un entretien que avant vous étiez très heureuse quand vous aviez de très bonnes critiques, mais maintenant vous espérez plus avoir du public. Ben, je crois que c'est réussi, parce que on a commencé l'émission par évoquer 150 000 entrées en 2 jours, donc vous êtes satisfaite de ce point de vue-là, vous avez rencontré le public.
En 3 jours, hein,
exactement. En 3 jours, ouais.
Oui, j'ai rencontré le public, je suis satisfaite à titre personnel, mais je suis surtout satisfaite que ce sujet-là attire les spectateurs. C'est bon signe.
Merci beaucoup, Emmanuel Berco. Donc, je rappelle le titre de votre film, La tête haute, qui est dans toutes les salles. C'était Projection privée, une émission de Michel Simon. Elle a été réalisée par Benjamin Hu. À la prise de son, Gaël Braouzek. Et elle a été préparée par Sylvia Favre. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre de Martin Kenen.